Ouais, il est juste l'heure. 16h15. Donc, je ne vous présente pas Patrice Cohen-Seat, qui lui est toujours au parti, contrairement à l'intervenant précédent. Ah ben, vous n'étiez pas dans la salle. Bon, alors Patrice, aujourd'hui, est président d'Espace Marx. Je ne crois plus qu'il a beaucoup de fonctions au Parti communiste proprement dit, non ? Depuis le dernier congrès. Donc, à Espace Marx, ça l'incite encore plus au travail intellectuel qu'il le faisait avant. Avant, il avait quand même publié, il y a quelques années, un livre qui s'appelait « Le communisme, l'avenir d'une espérance », qui était déjà une réflexion sur ce qu'on pouvait bien entendre par communisme à cette époque-là et aujourd'hui. Là, il a préparé, c'est pour ça, c'est ce qui nous a conduit à l'inviter. Alors, je dis au passage, moi, je suis Louis Weber, je suis une des personnes qui travaille à Espace Marx. Donc, nous lui avons demandé de présenter un livre qui va paraître d'ici deux petits mois, peut-être, un mois et demi. Alors, qui s'intitulera, sauf changement, parce qu'on peut toujours changer les choses, « Les luttes de classe au XXIe siècle », mais avec un surtitre qui est contre-offensif. Donc, vous voyez tout de suite le style dans lequel Patrice aborde ses questions, enfin, avec elle, pas pour se lamenter, mais pour au contraire faire des propositions. Son propos, qui est une poursuite en quelque sorte de son propos il y a quelques années, c'est une interrogation sur le fait qui nous concerne tous aujourd'hui, c'est de voir l'impuissance, enfin il dira lui-même, la relative impuissance de la gauche ou de la gauche tout court, qui devrait profiter largement de la crise des effets, ainsi de suite, sa relative impuissance politique à faire, au fond, ce que, pour l'instant, Syriza a pu faire en Grèce, mais encore, c'est soumis quand même à des interrogations, donc toute une réflexion sur un certain nombre des concepts de base, même, qu'il faudrait non pas réviser, on n'est pas dans le mode de la révision, mais on est dans le mode de l'interrogation critique. Il fallait interroger de façon critique, à commencer par celui de projet, d'idées, de projet, d'absence ou de présence de projet, et donc une réflexion qui s'impose, à mon avis, à cette université d'été, parce qu'elle est résolument prospective, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas les pieds sur terre. Mais vous allez le constater vous-même, donc il va parler une bonne demi-heure, disons, trois quarts d'heure même, enfin, sauf si vous montrez de l'impatience à l'interroger, à le houspiller éventuellement. Alors, à toi, Patrice.
Bon, merci. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont participé au débat qui vient d'avoir lieu un peu plus loin sur le concept d'hégémonie chez Gramsci, mais il a débouché, il s'est terminé par une discussion, un débat sur la question de savoir, au fond, ben voilà Hugo qui en était l'orateur, il a débouché sur une interrogation pour savoir si, au fond, on était dans une situation d'écrasement idéologique par les classes dominantes ou pas. Et on s'est interrogé sur la question de savoir si le problème était que les classes dominantes étaient trop hégémoniquement, culturellement hégémoniques et empêcher les classes dominées de se constituer en force pour résister, ou s'il y avait d'autres problèmes. Et c'est finalement une poursuite de cette question, sous l'intitulé « Les luttes de classe, quelle contre-offensive », qui vise finalement à savoir si on est, parce que ça fait 40 ans qu'il y a une régression sociale considérable dans tous les pays européens. Et ça fait des années, depuis 68 finalement, et même en tenant compte de l'immense mouvement social de 95, que les luttes, les mobilisations n'ont pas été assez puissantes pour empêcher cette régression sociale. Donc la question que tout le monde se pose, je suppose, dans le mouvement émancipateur, c'est de savoir si c'est une situation d'écrasement, en tout cas à quoi est due cette situation, et si on peut penser une contre-offensive, c'est-à-dire si on peut sortir de cette situation où les classes dominées n'arrivent pas à contester efficacement l'ordre existant. Alors, il faut faire un petit détour historique, parce que c'est un retournement de tendance depuis 40 ans. Pendant au moins 100 ans, plus de 100 ans, disons du milieu du 19e jusque dans les années 70, 68, je disais tout à l'heure, pendant ce siècle, le mouvement ouvrier, la classe ouvrière, a réussi à obtenir, à arracher des conquêtes considérables. D'ailleurs, je le dis entre parenthèses ici, parce que ça fera peut-être réfléchir et discuter, quelle que soit la couleur du gouvernement qui était au pouvoir. Et ça a rarement été, dans la période que je viens de citer, globalement, des gouvernements de gauche. Mais elle a réussi à arracher de très nombreuses conquêtes, le droit syndical, le droit d'association, la laïcité, les congés payés, enfin, tout ce que vous connaissez. Et la classe ouvrière, dans cette période, était dans la société très minoritaire. C'est la paysannerie qui était les 99%, enfin 99%, c'est pour reprendre une formule aujourd'hui en vogue, mais qui était l'immense majorité. Donc la question c'est comment se fait-il que la classe ouvrière ait réussi pendant un siècle, alors qu'elle était minoritaire, même si ses effectifs dans les actifs a progressivement augmenté, comment elle a réussi à devenir cette force, cette puissance sociale qui a bousculé les sociétés, transformé les sociétés et même fait vaciller le capitalisme en certains endroits du monde, et comment sa puissance a décliné au point qu'elle n'arrive plus, alors qu'elle est encore aujourd'hui 23% des actifs, et qu'avec les employés qui sont socialement très proches d'elle, les ouvriers, les employés, ça fait plus de 50% des actifs, comment se fait-il qu'elle reste dans cette situation où elle n'arrive pas à empêcher la régression? Alors, il faut faire un petit détour pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans cette ascension de la puissance de la classe ouvrière et dans son déclin. Pas de la classe ouvrière, mais de sa puissance. Il faut d'abord observer que les luttes des classes, c'est un phénomène historique. C'est-à-dire qu'il y a toujours de la conflictualité de classe depuis qu'il y a des sociétés de classe, mais les luttes de classe n'ont pas toujours permis aux classes dominées d'affronter efficacement et de contester efficacement la domination qu'elles subissent. Par exemple, je ne sais pas, prenons les esclaves. Il y a bien eu Spartacus, mais ça a été écrasé dans le sang. Prenons la paysannerie jusqu'à la Révolution française et même au-delà. Elle a été impuissante malgré la guerre des paysans qui a été aussi écrasée dans le sang en Allemagne. Elle a été également impuissante à contester, à secouer le joug que lui faisait subir le régime féodal et les grands propriétaires. Donc, les luttes de classe ne sont pas une réalité constante. C'est une réalité historiquement variable, dans laquelle, pas variable dans le sens où il y en aurait ou il n'y en aurait pas, il y a toujours cette conflictualité, mais la question de savoir si les classes dominées arrivent à se dresser comme une force face à ceux qui sont dominants, c'est une question qui n'est pas une constante historique, ça varie. Or, pour la classe ouvrière, il s'est passé quelque chose de tout à fait particulier. Pour la première fois, une classe dominée et parmi les plus dominées a réussi à devenir une grande puissance sociale. Ce n'était pas le cas de la bourgeoisie. La bourgeoisie est devenue une grande puissance sociale, mais elle n'était pas parmi les plus dominées. Elle avait déjà d'énormes moyens, et notamment les moyens du savoir et de l'argent, qui sont des moyens considérables. Et par ailleurs, la bourgeoisie n'est devenue une force puissante, au point de pouvoir finalement devenir la classe dominante, que relativement récemment, c'est-à-dire avec le développement du capitalisme au 19e et au 20e siècle. La bourgeoisie sous l'Ancien Régime, c'était une force réelle, mais ce n'était pas une force dominante, et elle arrivait à tirer son épingle du jeu dans les luttes de classe, mais ce n'était pas la force dominante, loin de là. Donc, il y a quelque chose d'extraordinaire dans le fait que la classe ouvrière, qui était vraiment la classe la plus dominée dans la société, à part ce que Marx appelait le lumpenprolétariat, qui a réussi à devenir une puissance sociale considérable. Et elle n'a pu le faire qu'en, là j'enfonce une porte ouverte, en se dotant de ce que Marx appelle une conscience de classe. Marx y fait la différence, on vient d'en parler, entre classe en soi et classe pour soi. Il y a les ouvriers qui forment sociologiquement une classe, qu'on appelle la classe ouvrière, mais les ouvriers n'ont pas toujours constitué une classe capable d'agir, de se battre et de conquérir des acquis. En tout cas au niveau où elle l'est devenue à la fin du XIXe et dans la première partie du XXe siècle. Mais progressivement, cette classe a réussi à se doter de ce qu'on appelle une conscience de classe, c'est-à-dire quelque chose qui les réunit, une vision commune de la société. Gramsci disait des choses et de la vie, des rapports de force, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui ne l'est pas, des objectifs atteignables, sur quoi peut-on lutter pour obtenir quoi et comment. Et ainsi, en s'unifiant politiquement, comme dit Marx, c'est-à-dire en se mettant d'accord sur ce sur quoi elle voulait se battre, pourquoi et comment, et finalement, en se mettant d'accord sur le type de société, en se rassemblant, en s'unifiant sur le type de société qu'elle voulait substituer à l'ordre capitaliste, elle a réussi à devenir une force très puissante. Cette question de l'unité et la question de ce qui sous-tend l'unité, c'est-à-dire de ce qui rassemble, c'est-à-dire d'un projet, est capitale. Marx disait d'ailleurs que la lutte des classes, c'est les efforts incessants de la bourgeoisie pour diviser le prolétariat et les efforts incessants du prolétariat pour s'unifier face à la bourgeoisie. La question de l'unité et de la division, c'est central. C'est l'essence même de la lutte des classes. Alors, évidemment, on peut comprendre que l'unité politique ne se fait pas aussi facilement à telle ou telle époque. Il y avait sans doute des obstacles objectifs très importants à ce que la paysannerie réussisse à s'unifier. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est évidemment une autre époque. Et comme le disait encore Marx, mais je suis président d'Espace Marx, donc j'en profite pour faire de la pub, quand il y a une classe dominante, ses idées sont dominantes. Et la paysannerie était largement soumise à l'idéologie de l'époque. Il y a donc les conditions. Et c'est vrai que la classe ouvrière, à partir de la fin du 19e et du début du 20e, elle a réussi, elle a eu des conditions, notamment les grandes entreprises industrielles géantes, qui rassemblaient des milliers, puis des dizaines de milliers d'ouvriers, ont constitué des conditions, disons, qui ont permis de tisser des liens, de prendre conscience ensemble de ses intérêts face aux ceux des patrons, etc. Il y a ces conditions-là. Mais il y a aussi, et je crois de façon décisive, et s'il y a une idée essentielle à mes yeux que je voudrais avancer, c'est celle-là, la conscience de classe dépend aussi d'un processus politique. C'est une construction. La conscience de classe n'est pas quelque chose qui, au fond, se révèle à une classe, qui existerait déjà, et il suffirait en quelque sorte de le révéler pour que la classe puisse s'unifier, s'organiser et agir. C'est le résultat d'une construction dont la nature est, précisément, de rassembler des forces autour de certains objectifs, d'une certaine vision des choses, de la société et de ce qu'elle doit devenir. Or, l'histoire de la classe ouvrière, depuis les premières luttes de fabrique, luttes d'atelier, luttes d'entreprise, luttes de secteur, luttes de filière, etc., et jusqu'aux luttes nationales, l'histoire de la classe ouvrière a été celle d'une classe qui a peu à peu élargi ses objectifs, depuis des objectifs que Marx appelait corporatistes, pas dans un sens péjoratif, mais dans le sens où il concernait une corporation donnée, c'était les intérêts particuliers de cette corporation, jusqu'à des intérêts de plus en plus larges, jusqu'à devenir des objectifs de plus en plus larges, jusqu'à devenir des objectifs proprement politiques. Et politiques jusqu'à contester le leadership des classes dominantes sur la nature de la société, sur ce qu'elle devait devenir. C'est-à-dire que la classe ouvrière est devenue une puissance politique au sens fondamental du mot, au sens étymologique du mot, c'est-à-dire une force capable d'agir sur l'organisation même de la société. Elle est devenue cette force en élargissant progressivement les forces sociales, cependant que, indissociablement, elle élargissait progressivement ses objectifs jusqu'à ce qu'ils deviennent politiques et qu'ils portent sur une alternative de système. La classe ouvrière a fini par porter, et quand je dis la classe ouvrière, je voudrais ajouter, c'est une façon de parler, parce que dans la classe ouvrière, il y avait évidemment beaucoup d'ouvriers, pas tous, d'ailleurs, il y a toujours eu des mouvements, par exemple, de droite ou réactionnaires dans la classe ouvrière, on le voit d'ailleurs encore aujourd'hui, mais il y avait aussi beaucoup qui n'étaient pas ouvriers, qui ont fait partie de ce mouvement, des employés, des gens des catégories intermédiaires, des intellectuels. Le Parti communiste est là pour témoigner qu'à une époque, les intellectuels étaient massivement engagés dans le Parti communiste. Mais donc, c'est en élargissant progressivement ses objectifs, en devenant capable de proposer une alternative de société, une alternative de système, un projet de société alternatif, que la classe ouvrière est devenue une puissance politique en rassemblant des forces sociales qui allaient d'ailleurs bien au-delà des rangs des ouvriers eux-mêmes. Et ce projet, on l'a tous en tête, il y a des mots-clés. C'était d'abord le rôle dirigeant de la classe ouvrière, ce qui joue un grand rôle dans ce qu'elle a été. C'était l'idée de révolution, c'était l'idée de dictature du prolétariat, c'était l'idée de l'économie administrée. En tout cas, ces mots que j'égrène là, ce ne sont pas des mots que j'emprunte à la théorie de Marx, mais à la réalité politique qui s'est construite et qui a débouché notamment sur les conceptions du socialisme d'État qu'on a connu, notamment dans les pays de l'Est. Donc, voilà quel a été le processus d'ascension de la puissance de la classe ouvrière. Et l'effacement de cette puissance, de la classe ouvrière comme sujet collectif puissant, j'emploie là le sens sujet collectif comme c'est un sujet social, c'est pas une organisation, la classe ouvrière. Les partis, les syndicats sont des organisations, mais la classe ouvrière comme ensemble de personnes que rassemble une vision des choses et des objectifs de lutte, c'est, j'appelle ça un sujet collectif. Cette classe ouvrière, cet effacement de la classe ouvrière comme sujet collectif est directement lié à la déconstruction de son projet, qui a été idéologiquement invalidé, on en a parlé également dans la séance d'avant, par l'effondrement du socialisme d'État. Et indissociablement, là aussi, cette invalidation du projet a contribué à déconstruire le rassemblement social de forces sociales réelles qui s'était construit autour de ce projet. Parce que, c'est aussi une question qui a été abordée, le pouvoir ne se situe pas dans les vapeurs des idées. Encore que, comme le disait Lénine, quand une idée s'empare des masses, elle devient une force matérielle. Ce qui compte et ce qui a fait la puissance de la classe ouvrière, c'est les forces sociales réelles qu'elle a réussi à rassembler et à mettre en mouvement. Mais il y a un lien indissociable entre le projet, qu'est-ce qu'on veut faire, et le rassemblement social, qu'est-ce qu'on veut, avec qui se rassembler, qui se rassemble ainsi pour lutter. Hugo, dans son exposé sur le concept d'hégémonie chez Gramsci, il énonçait la vision de Gramsci en disant qu'il y avait quatre pôles. Le pôle dirigeant, alors lui, il voyait le prolétariat. Le pôle auxiliaire, ceux avec lesquels on passait des alliances. Le pôle subalterne et le pôle ennemi. Et on s'interrogeait à la fin de la précédente atelier sur, au fond, comment est-ce qu'on pourrait analyser la situation maintenant? C'est une question. Et d'ailleurs, faut-il l'analyser dans ces quatre pôles ou de façon tout à fait différente aujourd'hui? On va y revenir. En tout cas, le projet et le rassemblement se sont simultanément déconstruits. Et c'est aujourd'hui le problème principal. Parce que, évidemment, il n'y a pas de projet qui vaille sans rassemblement pour le porter. Un intellectuel peut toujours fabriquer dans sa tête les meilleures idées du monde. S'il n'y a pas de force sociale qui se rassemble autour de ce projet, ça n'a nulle efficacité réelle dans la lutte de classe. Mais le rassemblement, les forces sociales qui peuvent se rassembler, dépendent du projet. C'est ce qui permet de souder, Gramsci disait, de cimenter un bloc social, c'est-à-dire une force réelle qui peut agir dans la société. Donc, il y a eu ce premier facteur absolument considérable qui a lié l'invalidation du projet que je vais appeler dorénavant, pour faire court, du socialisme d'État, et qui a déconstruit le rapport de force sociale. À quoi se sont ajoutés, profitant de l'affaiblissement du bloc antagoniste dans les classes dominantes, à quoi sont ajoutées de très importantes transformations de la société, du mode de production, du système de production, et notamment, ce qui me paraît être l'élément clé, l'organisation de la concurrence généralisée à l'échelle du monde et singulièrement de l'Europe. Il faut bien voir que cette transformation du capitalisme financiarisé, mondialisé, qui a été rendu possible, parce que c'est des décisions politiques qui ont créé ça. Quand a été décidée la libération des mouvements de capitaux, ça a été une décision politique. Les gouvernements auraient pu le refuser. Quand a été décidé l'acte unique ou Maastricht, les gouvernements auraient pu le refuser. Ce sont des décisions politiques. Donc, il y a bien eu un effet d'aubaine chez les classes dominantes qui ont profité de l'affaiblissement du bloc social qui leur était antagoniste. Mais ce à quoi elles ont, en profitant de l'aubaine, la divine surprise de l'effondrement de l'URSS et de l'idéologie et donc du rassemblement, ce qu'elles ont réussi à faire, c'est à organiser la concurrence entre les prolétariats, entre les salariés du monde entier, et singulièrement à faire de l'Europe la pointe avancée de cette mise en concurrence, afin de pouvoir diviser le prolétariat. Parce que ça a été une entreprise de division majeure. Quand chez Renault ou chez Fiat, les patrons disent aux ouvriers « Écoutez, si vous ne modérez pas vos revendications salariales, voire si vous n'acceptez pas de réduction salariale ou d'intensification de l'exploitation, même si ce n'est pas dans ces termes-là qu'ils le présentent naturellement, eh bien, j'investis ailleurs, je délocalise, je ferme parce que de toute façon je fais faillite, etc., etc. » Ils ont organisé un chantage au moins-disant social qui crée un rapport de force particulièrement défavorable pour les salariés. Donc, il y a eu la déconstruction du projet qui a affaibli le bloc, le mouvement ouvrier, appelons-le comme ça, même s'il y avait, je le répète, beaucoup plus que les ouvriers, mais historiquement, ça s'est construit autour de la classe ouvrière. Mais il y a eu aussi, profitant de cette situation, une transformation à marche forcée de la société depuis une quarantaine d'années qui a conduit à la situation d'un rapport de force très défavorable, notamment dans les luttes qu'on connaît aujourd'hui. Donc, pour résumer la situation actuelle, on a non seulement un capitalisme financier, financiarisé, mondialisé, etc., et une division profonde grâce à ça des classes dominées, mais on a en plus, et surtout, à mon avis, parce que ça, c'est la clé de tout, une difficulté, parce que faute de se rassembler sur une alternative de société, les classes dominées n'arrivent pas à mettre en cause de façon crédible le système actuel. Au fond, on sait contre quoi on lutte, mais pour installer quoi? Quel est le projet? Quelle est la perspective? Vers où veut-on aller? C'est pas que les uns et les autres n'aient pas d'idées. Les communistes, nous en avons. Les écologistes en ont. Le mouvement libertaire en a, les féministes en ont. Enfin, il y a beaucoup de courants d'idées et de courants de lutte dans la société qui sont porteurs de propositions et de projets. Le problème, c'est que tout ça ne converge pas vers une conception sur laquelle on pourrait se rassembler et lutter ensemble. D'où ma deuxième question, comment penser une contre-offensive? D'abord, je voudrais dissiper une idée souvent admise, et on en a aussi discuté dans l'atelier précédent, selon laquelle l'impuissance des classes dominées viendrait de l'hégémonie culturelle des classes dominantes. Je crois que c'est une idée fausse. Gramsci a beaucoup insisté sur cette question de la puissance de l'appareil de domination, appareil de domination de coercition société politique, disait-il, et appareil de domination de la société civile, c'est-à-dire tout ce qui est dans le domaine de la bataille idéologique et des idées, et des institutions qui organisent ça, l'école, l'église, les médias, dirait-on aujourd'hui, etc. Bon, il est indiscutable qu'il y a une bataille idéologique intense. Il est indiscutable que les médias sont devenus des puissances considérables. Mais il y a plusieurs facteurs qui font que, moi, personnellement, je pense qu'on peut dire que l'hégémonie culturelle, et en tout cas l'hégémonie idéologique, qui en est un aspect très important, des classes dominantes, est largement fissurée. D'abord, puisqu'on vient de parler des médias, je crois qu'il y a une sorte de contre-feu qui se développe au sein même du monde des médias, de la communication, avec la révolution numérique, avec Internet, avec les réseaux sociaux. Il y a maintenant, non pas une puissance des médias alternatifs, en quelque sorte, équivalente à ceux des médias officiels, mais il y a quelque chose de potentiel, et il y a une lutte qui s'organise pour savoir si cette nouvelle révolution des médias sera un instrument supplémentaire de domination ou un instrument d'émancipation nouveau. Il y a ensuite le fait qu'il y a aujourd'hui, à mon sens, une fracture au sein des classes dominantes. Le projet des classes dominantes, vous l'avez tous en tête, c'est le capitalisme mondialisé et la concurrence généralisée. Et ça passe par tous les traités qui structurent ce qu'on appelle la mondialisation et par la construction de l'Union européenne telle qu'elle est. Concurrence libre et non faussée, etc., etc. Or, aujourd'hui, au sein des classes dominantes, il y a les gagnants et les perdants de la mondialisation. Et les perdants ne sont pas du tout contents. Et ils développent politiquement, idéologiquement, un courant qui contredit le projet de mondialisation. Évidemment, c'est quelque chose qui peut avoir des aspects très dangereux, très très dangereux, avec la flambée des nationalismes que cela accompagne, qui accompagne le processus. Mais, en même temps, en stratège que nous sommes, puisque nous sommes des militants politiques, il faut que nous percevions le fait que il y a une division au sein des classes dominantes et que ça fait partie des facteurs d'affaiblissement de leur hégémonie. Il y a ensuite quelque chose qui m'apparaît essentiel, c'est une très grande souffrance sociale et une immense colère des couches populaires. Je ne vais pas, pour aller plus vite, parce que je vois que l'heure tourne, je ne vais pas énumérer tous les éléments de cette souffrance et de cette colère, mais pensez simplement, si vous vous demandez, est-ce qu'aujourd'hui les classes populaires adhèrent au discours des classes dominantes, je crois qu'on peut dire que la réponse est non. Elle est non sur les injustices, elle est non sur les inégalités, elle est non sur la bourse, elle est non sur... Et elle est non sur un système démocratique qui leur paraît les laisser impuissants. Donc, il y a vraiment une mise en cause de cette hégémonie. Et dernièrement, et ça me paraît peut-être l'élément clé, nous ne sommes pas dans une société apaisée. Nous ne sommes pas dans une société de consentement à la domination. Nous sommes dans une société que je qualifierais d'éruptive. Il y a énormément de luttes qui touchent quasiment toutes les catégories sociales et qui touchent quasiment tous les secteurs, tous les domaines de la société. Je ne vais pas non plus les énumérer puisque vous les avez en tête, mais je vais vous donner un chiffre qui quand même est illustratif. Savez-vous qu'à Paris, selon la réponse d'un ministre de l'Intérieur à un honorable parlementaire, il y a eu en 2013 3411 manifestations, soit plus de 10 par jour, enfin près de 10 par jour, et 119 policiers blessés, c'est-à-dire que c'était quand même pas des manifestations qui étaient toutes paisibles. C'est des manifestations qui ont parfois été dures. C'est-à-dire que si on additionne les luttes d'entreprise, les luttes pour l'emploi, les luttes pour la protection sociale, les luttes pour les droits des femmes, les luttes pour les réfugiés. Dorénavant, j'adopte le mot « réfugié » plutôt que « migrant » parce que j'ai entendu à la radio, et je suis d'accord avec ça, que le mot « migrant » est une façon de dépersonnaliser les situations humaines de ces hommes et de ces femmes qui se réfugient. Lutte pour l'école, lutte des agriculteurs cet été, lutte pour un autre monde, lutte. Tous les secteurs sont concernés. Et ça concerne tellement de gens comme catégorie sociale. Et ça concerne tellement de secteurs qu'une expression qui disait « nous sommes les 99%, vous savez, c'était Occupy Wall Street, a fait mouche dans l'opinion. Évidemment que ce n'est pas les 99% qui sont dressés comme un seul homme, sinon il n'y aurait plus de problème et on ne serait pas en train de parler de ça. On serait sur les barricades, je suppose. Mais ça signifie quelque chose. Ça signifie que les couches et les catégories sociales qui sont atteintes par le capitalisme et par la société que nous fabrique ce capitalisme sont toutes en révolte contre cet ordre social-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de luttes, mais au fond, elles butent toutes sur le problème que je signalais précédemment, c'est-à-dire sur l'incapacité à faire système, à déboucher sur une conception de la société, à déboucher, à se rassembler. Là encore, je ne dis pas qu'il n'y a pas des tas de gens ou des tas de partis qui n'ont pas des idées. Mais le fait est que ça n'arrive pas à rassembler l'ensemble de ces catégories sociales. En tout cas, on n'est pas dans une société écrasée. Le problème n'est pas l'idéologie dominante qui jouerait comme une sorte de chape de plomb sur la société. On est dans une société de contestation permanente et multiforme. Et donc, on a là aussi une situation contrastée d'une hégémonie des classes dominantes contestées et d'une impuissance des classes dominées à se rassembler sur une alternative de système. Je crois que c'est vraiment la question clé. Et c'est important de le dire parce que ça nous renvoie non pas à l'impuissance, mais au contraire à la nécessité de l'action pour nous qui sommes militants des forces organisées. La balle n'est pas dans le camp des classes dominantes. La balle, elle est dans notre camp, elle est dans notre capacité à surmonter les divisions pour fabriquer du commun. Et là se posent certains problèmes. Parce que les divisions, elles ne sont pas factices. Ça n'est pas de petites choses. Prenez l'Europe. Au sein même du mouvement, je dirais, comment on va l'appeler, de la gauche radicale, de la gauche de transformation sociale, il y a les fédéralistes et il y a les souverainistes. Et puis il y a ceux qui sont évidemment ni l'un ni l'autre. Sur le rôle de l'État, il y a ceux qui en veulent plus, ceux qui en veulent moins. Et ceux qui en veulent autrement. Sur la propriété, sur les réfugiés dont je viens de parler, sur l'école, sur la laïcité, sur la fiscalité, sur la protection sociale, sur toutes ces questions, il y a toutes sortes d'idées qui se confrontent au sein de ce que j'appellerais le mouvement émancipateur. Et donc, on est dans une situation où la question de la fabrication de l'unité est devenue la question clé. Et là, je voudrais dire un mot du contexte et dire un mot du problème auquel nous sommes confrontés. Sur le contexte, on n'est pas là aussi dans une situation de déshérence. Après l'effet sidératif de l'implosion, la chute du mur et de l'implosion du socialisme d'État, depuis grosso modo le milieu des années 90, je pense notamment au grand mouvement social de 95 et à son mot d'ordre « tous ensemble », il y a en Europe un grand mouvement de rapprochement. Des murs sont tombés, pas que le mur de Berlin, il y a aussi des murs qui sont tombés entre les courants qui se battent au fond pour l'égalité dans la société et pour autre chose que le capitalisme. Il y a d'abord des multitudes de forums que vous connaissez, dans toute l'Europe d'ailleurs, qui ont rapproché les partis de la gauche de transformation, les syndicats, des intellectuels, etc. Il y a un très vigoureux mouvement de renaissance et de développement de la pensée critique. On parlait tout à l'heure, dans l'autre atelier, du nombre de publications consacrées à Marx, qui d'ailleurs a été inscrit pour la première fois de l'histoire en France à l'écrit du concours de l'agrégation. Il y a quelque chose qui se passe et qui est puissant. Il y a de nouvelles recherches, indiscutablement, on peut le dire, depuis 10-15 ans, de rapprochement directement politique. Front de gauche, Die Linke, Izquierda Unita, gauche rouge verte nordique, et même maintenant en Écosse, avec le Parti national écossais, l'Irlande avec le Sinn Féin, qui prend une importance remarquable, et jusqu'à l'Angleterre, puisque vous avez vu que l'aile gauche du Labour était en train de bousculer le rapport de force. Et puis, en 2004, il y a eu la création du PGE. C'est-à-dire que la réalité de cet appel à l'unité qu'on entendait crier dans les rues en 1995 à Paris, c'est une réalité dans le peuple, si je peux dire, et qui se traduit dans le fait que les initiatives, les occasions de rapprochement, les formes de rapprochement, y compris politiques, se développent. Mais, et c'est là le problème que je voulais mentionner, je pense que nous ne pouvons plus penser la fabrication de l'unité de la même façon qu'à l'époque de la classe ouvrière dirigeante. Le rassemblement qui s'est construit autour de la classe ouvrière était un rassemblement autour d'une classe sociale qui avait une certaine homogénéité et dans sa capacité à lutter, tout à fait exceptionnelle par rapport aux autres catégories sociales, a conquis, elle ne l'a pas imposé, rien ne s'impose en politique, a conquis un rôle dirigeant. Les uns, les autres, combien de bataillons ? La classe ouvrière, elle avait beaucoup de bataillons et de gros bataillons. C'était ça son rôle dirigeant, avant d'être un dogme. Or, aujourd'hui, dans la multitude des luttes qui traversent la société, dans la multitude des forces qu'il faut faire converger et rassembler pour construire une unité, il y a une immense diversité. Et donc, ça ne peut plus être de l'unité qui part d'en haut et qui s'impose à tout le mouvement, par des alliances ou de toute autre façon. C'est un travail qui nécessite de construire du commun à partir de la diversité. Je ne vais pas développer ce point qui est capital parce que ça me ferait sortir du sujet global que je me suis donné. Mais que ce soit pour le projet, que ce soit pour le rassemblement des courants politiques, qui pose des problèmes. Vous avez vu le débat qu'il y a sur le concept de gauche. Est-ce qu'il y a une gauche, des gauches ? Qui est de gauche ? Socialistes sont-ils de gauche ? Podemos, qui dit « Moi, je préfère donner l'objectif de rassembler le peuple que de rassembler la gauche ». Bref, s'agissant du rassemblement des courants politiques, s'agissant du mode de fonctionnement des organisations, on est dans la situation où les formes anciennes, je crois, ne sont plus efficaces. Et qu'il faut que nous-mêmes, militants politiques, militants des forces organisées, nous arrivions à penser les conditions actuelles de ce que j'appellerais la fabrication du commun. Conclusion, en deux mots, il y a beaucoup de pain sur la planche. Mais il y a vraiment du pain sur la planche, parce que nous ne sommes pas, j'espère avoir apporté quelques arguments dans ce sens, dans une période d'atonie, nous sommes dans une période d'ébullition. Nous vivons, je crois, les prémices d'une nouvelle époque des luttes des classes. Mais il faut en inventer les conditions. Alors, ça a beaucoup de conséquences, et la principale, c'est que, je crois, il nous faut, à nous, militants des forces organisées, trouver les moyens de créer les conditions d'un dialogue, d'expérience politique, d'expérience de lutte, de débat et d'échange avec tous ceux qui, au fond, sont affrontés au capitalisme. Il faut que nous inventions les moyens. Je crois que c'est ça la réinvention de la politique aujourd'hui, pour que le peuple dans sa diversité, comme la classe ouvrière le fut hier, le peuple dans sa diversité, qui est dans sa diversité aujourd'hui en lutte dans la société. Mais comme vous le savez, évidemment, ça ne veut pas dire que tout le peuple est en lutte. Comme hier, quand il y avait des luttes, ce n'était pas toute la classe, tous les ouvriers qui l'étaient. Mais que le peuple, dans sa diversité, puisse se constituer en sujet collectif et prenne le relais de ce que fut la classe ouvrière pour devenir lui-même, à son tour, une force puissante.
Bien.